marchande de sable, conte d'Andersen. Ib et la petite Christine. Chapitre 1. Dans le nord du Jutland, au Danemark, les eaux claires de la rivière Gudena longent une grande forêt. Il existe à la lisière des bois une maisonnette de paysans, entourée d'un peu de sol arable. Sol bien maigre, et à travers le seigle et l'orge qui poussent péniblement, on aperçoit partout le sable. Il y a un certain nombre d'années, les braves gens qui habitaient là cultivaient leur coin de terre. Avec 3 brebis, 1 porc et 2 bœufs, ils avaient de quoi vivre, si l'on appelle vivre se contenter du strict nécessaire. Jeb Jaens, c'était le nom du paysan, travaillait au champ pendant l'été, mais l'hiver, il faisait des sabots. Son apprenti et lui n'avaient pas leur pareil pour donner à ses solides chaussures de bois des formes élégantes, de la légèreté. Il taillait aussi des cuillères et d'autres ustensiles, qui se vendaient bien, et peu à peu, J.P. Jaens arrivait à une sorte d'aisance. Son fils unique, le petit Ib, avait alors 7 ans. Il aimait à regarder son père travailler. Il essayait de l'imiter, taillader le bois, et de temps en temps se faisait au doigt de profondes coupures. Mais un jour, il montra à ses parents d'un air triomphant 2 jolis sabots tout mignons. Il dit qu'il en ferait cadeau à la petite Christine. Qui était Christine ? C'était la fille d'un batelier, mais elle était gentille et délicate comme un enfant de seigneur. Si elle avait porté de beaux habits, personne ne se serait douté qu'elle était née dans une cabane sur la lande voisine. Là demeurait son père, qui était veuf. Il gagnait sa vie en chargeant sur sa grande barque le bois à brûler que l'on coupait dans la forêt et en le transportant jusqu'au domaine de Silkeborg, parfois même jusqu'à la ville de Randers. Comme il n'y avait personne chez lui pour garder Christine, il l'emmenait presque toujours dans sa barque ou dans la forêt. Mais quand il fallait aller à la ville, il la conduisait chez J.P. Jaens. Christine avait 1 an de moins que le petit Ib. Les 2 enfants étaient les meilleurs amis du monde, partageaient leur pain, leur myrtille, faisaient ensemble des trous dans le sable. Ils trottinaient partout aux environs, jouant, sautant. Un jour même, ils se hasardèrent à entrer tout seuls assez avant dans le bois. Ils y trouvèrent des œufs de bécasse et ce fut pour eux un événement mémorable. Ib n'avait encore jamais été ni dans la maison de Christine, ni dans la barque du batelier. Mais un jour, celui-ci l'emmena chez lui à travers la lande pour lui faire voir le pays et la rivière. Le lendemain matin, on jucha les 2 enfants dans la barque, tout en haut sur les fagots. Ib regardait de tous ses yeux et oubliait presque de manger son pain et ses myrtilles. Le batelier et son compagnon poussaient dans la barque avec des perches. Ils filaient dans le courant, au milieu des lacs que forme la rivière. Certains de ces lacs paraissaient clos entièrement par des bancs de roseaux et par les chaînes séculaires qui se penchaient sur l'eau. D'autres fois, on voyait de vieux aunes couchés à l'horizontale dans la rivière et tout entourés d'iris et de nénuphars, ce qui faisait de charmants îlots. Les enfants ne cessaient d'admirer. Mais lorsqu'on arriva près du château de Silkeborg, là où se trouve le grand barrage à prendre les anguilles, lorsqu'ils virent l'eau se précipiter en écumant et bouillonner avec fracas à travers l'écluse, oh ! Alors Ib et Christine déclarèrent que c'était merveilleux. En ce temps-là, il n'y avait en ce lieu ni ville ni fabrique. On y apercevait seulement quelques bâtiments de ferme habités par 12 de paysans. Ce qui animait Silkeborg, c'était le bruit de l'eau et les cris des canards sauvages. Les fagots débarquaient, le batelier acheta des anguilles et un cochon de lait fraîchement tué. Le tout fut mis dans un panier à l'arrière de la barque, puis on s'en retourna. On tendit la voile, et comme le vent était favorable, la barque remontait la rivière aussi vite que si 2 chevaux l'avaient tirée. On arriva à l'endroit où habitait le compagnon du batelier. Les 2 hommes devaient aller à terre. Après avoir attaché solidement la barque au rivage et bien recommandé aux enfants de se tenir tranquilles, ils s'en allèrent. Pendant quelques minutes, Ib et Christine ne bougèrent pas. Puis, poussés par la curiosité, ils s'approchèrent du panier, soulevèrent le couvercle, le mignon petit cochon de lait. Ils ne purent résister au plaisir de le tâter, de le tourner en tous sens, de le prendre tour à tour dans leurs bras. Tant et si bien que l'animal tombe à l'eau et est entraîné par le courant. Quelle catastrophe ! Ib, épouvanté, ne fait qu'un bond jusqu'à terre et se sauve à toutes jambes. Christine saute après lui en lui criant de l'emmener. Et voilà les deux enfants qui fuient vers la forêt et disparaissent entre les arbres. Bientôt, les broussailles dérobent à leur vue la rivière. Cette rivière maudite qui emportait le petit cochon. Pourchassés par cette pensée, ils avançaient toujours. Christine a trébuché sur une racine et elle se met à pleurer. Ib lui dit « Courage, notre maison est par là-bas. » Mais il n'y a aucune maison de ce côté. Les pauvres petits marchent toujours. Les feuilles sèches de l'an dernier et les branches mortes craquent sous leurs pieds. Tout à coup, ils entendent des voix d'hommes, des appels qui résonnent dans la forêt. Ils s'arrêtent pour écouter. Au même moment, au-dessus de leur tête, retentit un vilain cri d'aigle. Ils continuent de fuir. Mais voilà qu'ils aperçoivent des myrtilles en nombre incalculable, les plus belles myrtilles qu'on puisse imaginer. Ce spectacle a vite fait de dissiper leur frayeur. Ils se mettent à les cueillir et à les manger. Ils ont la bouche et les joues toutes barbouillées de rouge et de bleu. Les cris d'hommes recommencent dans le lointain. « Nous serons joliment punis, » dit Christine. « Sauvons-nous chez papa, » répond Ib. « C'est par ici dans le bois. » Ils reprennent leur marche. Ils arrivent à un chemin et le suivent. Mais ce chemin ne conduit pas à la maison de J.P. Jaens. La nuit vint. Il faisait bien sombre et les enfants avaient grand peur. Partout régnait un profond silence. C'est à peine si l'on entendait, de temps en temps, les cris du hibou et de quelques autres oiseaux inconnus. Ib et Christine étaient bien fatigués. Pourtant, ils avançaient toujours. Ils finirent par s'égarer au milieu des broussailles et Christine pleurait. Ib aussi se mit à pleurer. Après avoir gémi quelque temps, ils s'étendirent sur les feuilles sèches et s'endormirent. Le soleil était déjà assez haut lorsqu'ils s'éveillèrent tout transis. À travers les arbres, ils aperçurent une colline déboisée. Ils y coururent pour se réchauffer aux rayons du soleil. Ib pensait que de là-haut, il découvrirait la maison de son père, mais ils en étaient loin, dans une toute autre partie de la forêt. Arrivés au sommet de la colline, ils restèrent immobiles de surprise. En bas s'étendait un beau lac à l'eau verte et transparente. À côté d'eux, ils virent un noisetier chargé de fruits et se régalèrent de ses noisettes fraîches, au goût délicat. Tout à coup, ils s'arrêtèrent, saisis de frayeur. Debout près d'eux, comme si elle était sortie de dessous terre, se tient une grande vieille femme au visage brun foncé, les cheveux luisants, le blanc des yeux brillants. Elle a sur le dos un sac, à la main un bâton noueux. C'est une bohémienne. Elle leur parle, mais ils ont de la peine à se remettre et ne comprennent pas d'abord ce qu'elle leur dit. Elle leur montre trois grosses noisettes, des noisettes magiques qui contiennent les plus magnifiques choses du monde. Ib ose regarder la bohémienne en face. Elle parle avec tant de douceur qu'il reprend courage et demande si elle veut bien lui donner ses noisettes. Elle lui en fait cadeau et se met à en cueillir d'autres sur le noisetier. Ib et Christine regardent les trois noisettes avec de grands yeux. « Dans celle-là, dit Ib, je parie qu'il y a une voiture à deux chevaux. » « Un carrosse doré tiré par deux chevaux d'or, » répond la bohémienne. « Alors donne-la-moi, » dit Christine, et Ib la lui donne. « Et celle-ci, » reprend-il, « que peut-elle bien contenir ? Un fichu ? Oui. Un fichu aussi joli que celui que Christine a autour du cou. » « Il y en a 10, encore plus beaux, et une quantité de robes, de souliers brodés, un chapeau garni d'un voile de dentelle. »« Alors il me la faut aussi !» s'écrie Christine. Ib la lui donne généreusement. Restait la troisième noisette. Elle est toute noire. « Celle-là, dit la petite Christine, tu dois la garder. Elle est belle aussi. »« Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ?» demande Ib à la bohémienne. « Ce qu'il y a de mieux dans les trois. » répond celle-ci. Il serre précieusement sa noisette. La femme leur promet de les ramener dans le bon chemin, le chemin qui conduit à leur maison. Ils la suivent, mais dans une toute autre direction que celle qu'ils auraient dû prendre. Il ne faut pas croire, cependant, que la bohémienne avait voulu voler les enfants à leurs parents. Elle s'était trompée elle-même, sans doute. Au milieu du sentier survient le garde-chasse. Il reconnaît Ib et le ramène avec la petite chez J.P. Jaens. Là, on était dans l'angoisse à cause d'eux. On leur pardonna néanmoins, après leur avoir bien expliqué combien sévèrement ils méritaient d'être punis. D'abord pour avoir laissé tomber à l'eau le cochon de lait, ensuite et surtout pour s'être enfui dans le bois. On reconduisit Christine chez son père. Ib resta dans la maisonnette à la lisière de la forêt. La première chose qu'il fit le soir, une fois seul, fut de tirer de sa poche la noisette magique. Il la place avec précaution entre la porte entrouverte et le gond et pousse la porte. La coquille se casse. Elle est vide. Un ver a mangé l'intérieur. Il ne reste qu'un peu de poudre, une sorte de fine terre noirâtre. C'est ce que j'avais pensé tout de suite, se dit Ib. Comment y aurait-il eu place dans cette petite noisette pour tant de choses merveilleuses, pour ce qu'il y a de mieux ? Christine ne trouvera pas plus que moi ses beaux habits et son carrosse doré traîné par deux chevaux d'or. Chapitre 2. L'hiver arriva, et ensuite le printemps. Les saisons succédèrent aux saisons, et il se passa plusieurs années. Ib fut mis alors en pension chez le pasteur du village le plus proche, afin de pouvoir fréquenter l'école. Vers cette même époque, le batelier vint voir les parents d'Ib et leur apprit que Christine allait vivre désormais chez les meilleurs gens du monde, les propriétaires de l'auberge d'Erning, située bien loin à l'ouest, à plusieurs lieues de distance de la forêt. Elle aurait à les aider dans les travaux du ménage et à servir les clients. Si elle se montrait laborieuse et gentille, comment douter qu'il en serait ainsi ? Les bonnes gens avaient l'intention de l'élever comme leur propre fille. C'était une grande chance qui s'offrait à elle. On alla chercher Ib pour qu'il pût dire adieu à Christine, car on les appelait les petits fiancés. Au moment du départ, Christine montra à Ib les deux noisettes qu'il lui avait données dans le bois. Elle ajouta qu'elle conservait également avec soin, dans sa cassette, les jolis petits sabots qu'il avait façonnés étant enfant et dont il lui avait fait cadeau. Lorsqu'il quitta l'école, Ib revint auprès de sa mère. Son père était mort. Il devint un habile sabotier. L'été, il cultivait le champ, épargnant à sa mère la dépense du laboureur. De loin en loin, on avait des nouvelles de Christine par le facteur ou par un colporteur. Elle se trouvait très bien chez le riche aubergiste. Un jour, on frappa à la porte de la mère d'Ib. Ce n'était autre que le batelier, accompagné de Christine. La jeune fille était venue en visite, profitant de l'occasion d'une voiture de l'auberge qui devait passer non loin de la maison de son père. Elle était jolie comme une demoiselle de la ville. Elle portait une belle robe qui lui allait très bien. Ib, lui, avait ses habits de tous les jours. Il ne put prononcer une parole. Cependant, il prit la main de la jeune fille et la retint dans la sienne. Il se sentait heureux, mais il lui était impossible de mettre sa langue en mouvement. Pour Christine, c'était tout le contraire. Elle ne cessait de babiller, de raconter, et elle embrassa Ib sans le moindre embarras. « Tu ne m'as donc pas reconnu tout de suite ?» lui dit-elle quand ils furent seuls. « Tu es resté muet comme un poisson. » Paralysé par l'émotion, Ib se tenait immobile aux côtés de Christine, sans lâcher sa main. Enfin, il retrouva la parole. « C'est, dit-il, que tu es devenue une demoiselle si élégante, tandis que me voilà fagotée comme un pauvre paysan. Mais si tu savais combien j'ai pensé souvent à toi, il y a nos jeunes années. » Et ils allèrent se promener en se donnant le bras, vers le terrain qui montait derrière la maison. Ils observaient les alentours, la rivière, la forêt, les collines couvertes de bruyère. Ib pensait plus qu'il ne parlait. Mais lorsqu'ils rentrèrent, il était devenu évident pour lui que Christine devait être sa femme. On les avait toujours appelés les petits fiancés. L'affaire lui paraissait conclue. Ils étaient promis l'un à l'autre, bien qu'aucun d'eux ne s'en fût jamais expliqué. Il fallait que Christine retourne le soir même au village, où la voiture devait la prendre le lendemain matin de bonne heure. Son père et Ib la reconduisirent. La nuit était belle. Il y avait clair de lune et les étoiles brillaient. Lorsqu'ils furent arrivés, Ib reprit la main de la jeune fille. Il ne savait plus comment se séparer d'elle et ne quittait pas des yeux son doux visage. Il prononça avec effort, mais du fond du cœur, ces mots. « Si tu n'es pas trop habituée à l'élégance, petite Christine, si cela ne te déplaît pas de venir habiter dans la maison de ma mère, » Ib l'embrassa tendrement et on se quitta. En rentrant, il dit au batelier que lui et Christine étaient tout comme fiancés, cette fois pour de bon. Le père répondit qu'il n'avait jamais désiré autre chose. Il accompagna Ib chez sa mère et il resta fort tard dans la soirée, on ne s'entretint que du futur mariage. Une année se passa, deux lettres furent échangées entre Ib et Christine. Fidèle jusqu'à la mort, pouvait-on lire au bas de ces lettres. Un jour, le batelier vint voir Ib et lui apportait le bonjour de Christine. Puis il se mit à raconter des tas de choses, mais sans beaucoup de suite et d'un air embarrassé. Voici ce qu'Ib finit par comprendre. Christine était devenue encore plus jolie. Tout le monde la choyait et l'aimait. Le fils de l'aubergiste, qui avait une belle place dans un grand établissement de Copenhague, était venu en visite à Herning. Il avait trouvé la jeune fille charmante et il avait su lui plaire. Les parents étaient enchantés. Mais Christine n'avait pas oublié combien Ib la chérissait. Aussi était-elle prête à renoncer à son bonheur. Le batelier se tut, de plus en plus mal à l'aise. Ib avait entendu tout cela sans souffler mot. Mais il était devenu plus blanc que le mur. Enfin, il secoua la tête et balbutia. « Non, Christine ne doit pas sacrifier son bonheur. »« Eh bien, » dit le batelier, « écris-lui quelques mots. » Ib s'assit et prit plume et papier. Après avoir bien réfléchi, il écrivit quelques mots qu'il effaça aussitôt. Il en traça d'autres qu'il biffa encore et déchira finalement la feuille. Ce n'est que le lendemain qu'il arriva à écrire sans rature la lettre suivante, qu'il remit au batelier pour Christine. J'ai reçu la visite de ton père. Il m'a dit que tout jusqu'ici s'est arrangé à souhait pour toi et que tu peux même encore être plus heureuse. Interroge ton cœur, Christine, et réfléchis au sort qui t'attend si tu te maries avec moi. Ce que je possède est bien peu de choses. Ne pense pas à moi ni à ce que je pourrais éprouver. Tu n'es liée envers moi par aucune promesse et si dans ton cœur tu en avais prononcé une en ma faveur, je t'en délie. Que le bonheur répande sur toi, Christine, ses plus riches dons. Ton ami à jamais dévoué, Ib. Le brave garçon, pensa Christine. Ses bans furent publiés le mois suivant et elle partit pour Copenhague avec sa future belle-mère. Le mariage devait avoir lieu dans la capitale que le fiancé, à cause de ses affaires, ne pouvait quitter. En chemin, elle fut rejointe par son père. Elle s'informa de ce que devenait Ib. Le batelier ne l'avait pas revu, mais avait appris de sa vieille mère qu'il était taciturne et travaillait sans lever la tête. Ib, en effet, vivait plongé dans ses pensées. Il se souvenait des trois noisettes que lui avait données la bohémienne. Des deux où devait se trouver le carrosse aux chevaux dorés et les riches vêtements, il en avait fait cadeau à Christine. Et n'allait-elle pas posséder toutes ces choses merveilleuses ? Pour lui, la prédiction s'accomplissait aussi. Il avait eu en partage de la terre noire. « Ce qu'il y a de mieux !» avait dit la bohémienne. Comme elle a deviné juste, pensait Ib, la terre la plus noire, n'est-ce pas ce qui convient le mieux à un pauvre garçon dans mon genre? Quelques années s'écoulèrent, qui firent à Ib l'effet d'un siècle. Le vieil aubergiste mourut, puis sa femme. Ils laissèrent à leur fils unique des milliers d'écus. Alors Christine eut son carrosse, du moins une élégante calèche, et des robes autant qu'elle en voulait. Deux ans passèrent encore. Le batelier resta presque sans nouvelles de sa fille. Enfin arriva une longue lettre d'elle. Tout était bien changé. Ni elle ni son mari n'avaient suggéré leur richesse. Ils commençaient à être dans la gêne. La bruyère refleurit. Elle se dessécha. La neige vint s'abattre sur la forêt qui protégeait la maison d'Ib contre la violence du vent. Puis le printemps ramena le soleil. Ib laboura son champ. Sa charrue rencontra tout à coup un obstacle. Il fouilla la terre et en retira une sorte de gros copeau noir. Mais à l'endroit où le soc de la charrue l'avait touché, ce copeau brillait au soleil. C'était un bracelet d'or massif qui provenait d'une de ces tombes que les gens d'un pays appellent un tombeau de géants. En creusant, Ib trouva encore d'autres pièces de la parure d'un guerrier des temps anciens. Il montra le tout au pasteur qui l'adressa au bailli avec quelques mots de recommandation. Ce que tu as découvert dans la terre, lui dit le bailli, c'est très rare. Vraiment, on n'a jamais rien trouvé de mieux. Ib ne se rendait pas exactement compte de ce qui lui arrivait. C'est égal, murmura-t-il. Puisque ces messieurs pensent qu'il n'y a rien de mieux, la bohémienne avait prédit juste en tout. Sur le conseil du bailli, Ib partit porter son trésor au musée de Copenhague, lui qui ne connaissait que sa rivière et dut traverser un bras de mer en bateau. À Copenhague, le conservateur du musée lui remit une forte somme, 600 écus. Ensuite, il visita la grande ville, qu'il voulait quitter dès le lendemain. Il finit par se perdre dans un dédale de rues. À la tombée de la nuit, il se trouvait dans une ruelle déserte. Il demanda son chemin à une petite fille qui sortait d'une maison misérable. L'enfant le regarda d'un air craintif et se mit à pleurer. Touché par ses larmes, il l'interrogea, mais elle sanglotait de plus belle. Ils firent quelques pas, la lumière d'un réverbère tombait juste sur le petit visage. Ib fut bouleversé. Il voyait devant lui Christine, absolument comme elle était dans ses jeunes années. Ib dit à l'enfant de le conduire chez elle. Il a l'air si bon qu'elle cesse de pleurer et l'entraîne dans un escalier étroit et branlant. Tout en haut, il pénètre dans une mansarde. Il n'y a pas de lumière. On entend quelqu'un respirer péniblement dans un coin. Ib craque une allumette et aperçoit une femme, la mère de l'enfant, couchée sur une paillasse. La tête de la malade a glissé, il la replace doucement sur l'oreiller. L'espace d'une seconde, il a vu le visage pâle et amaigri de celle qui était autrefois sa petite fiancée, la gracieuse demoiselle de la Lande. Depuis quand Ib n'avait-il pas entendu parler de Christine ? On évitait de prononcer son nom devant lui, d'autant plus qu'on ne recevait que de mauvaises nouvelles. Le fils des aubergistes avait fait un bel héritage, mais l'argent lui était monté à la tête. Il avait renoncé à sa place, couru le monde, mené un train de grand seigneur. Lorsque l'argent manqua, il fit des dettes. Ses amis lui tournèrent le dos en disant qu'il n'avait que ce qu'il méritait. Un matin, on trouva son corps dans le canal. Christine avait perdu depuis longtemps toutes ses illusions. Elle restait seule avec sa fille, qui s'appelait Christine elle aussi. La mère et l'enfant vivaient dans ce taudis, abandonnés, souffrant de la faim et du froid. La pauvre femme était tombée malade. Ib l'entendit murmurer. « Je vais mourir. Que va devenir ma petite Christine ?» Épuisée, elle cessa de parler. Ib alluma un bout de chandelle planté dans une bouteille et la chambre fut un peu éclairée. Il regarda l'enfant. Plus il l'observait, plus il retrouvait en elle Christine à cet âge-là. Et aussitôt, il sentit que cette petite qu'il venait de voir pour la première fois, il la chérissait tendrement. La mourante l'aperçut, ses yeux s'ouvrirent tout grands. Est-ce qu'elle le reconnut ? Il ne le sut jamais. Peu d'instants après, elle s'éteignit sans avoir prononcé une parole. Nous voici de nouveau dans le bois près de la rivière de Gudena. Les tempêtes d'automne balayent bruyamment les feuilles sèches à travers la lande jusqu'à la hutte du batelier, où des étrangers habitent à présent. Mais à l'abri d'une élévation de terrain et protégée par de grands arbres, la maison J.P. Jaen s'est toute décrépie, toute recrépie et toute blanche. À l'intérieur flambe un grand feu. Si le soleil est caché par les nuages, le logis est égayé par les yeux brillants d'une jolie enfant. La vie et la joie règnent avec elle dans la maison. La petite dort en ce moment sur les genoux d'Ib, qui est pour elle en même temps un père et une mère. Sa mère repose au cimetière de Copenhague. L'enfant se souvient à peine d'elle. Ib a acquis de l'aisance. Son travail n'a pas été stérile. Il a fait fructifier l'or qu'il a retiré du sein de la terre et il a retrouvé la petite Christine. »